Alors, je vais inviter tous ceux qui ont leur Bible à tourner dans Matthieu 21. J'aimerais demander s'il y a un bon lecteur ou lectrice qui voudrait se lever puis nous lire le verset 12 à 17. Notre Père, je te prie d'utiliser ta parole ce matin pour nous parler, je dirais pour nous convertir, pour transformer nos cœurs. Et bénis ce temps par ta parole, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Amen. Je méditais sur mon message plusieurs semaines et j'ai eu vraiment l'image que, en fait, je crois que vraiment... vous allez vous sentir bousculé ce matin. Même en fait, hier, je regardais le football universitaire qui avait les Carabins de Montréal contre les Verts de Sherbrooke. Et je me disais, il me semble que là, je vous imagine justement tout avec des casques de football, des épaulettes pour dire, Daniel, on est prêt parce que tu nous rentres dedans. Non, pas dans le sens que ça va être méchant, mais je me dis, je vais sentir de la résistance, je crois. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas nécessairement difficile, c'est juste que je sais que souvent, je dis des choses qui amènent la réflexion plus loin. En réfléchissant, en méditant et dans différents aspects de la vie chrétienne, j'ai réalisé que des fois, nous, les chrétiens évangéliques, il y a des choses qu'on est capable de dire puis de ne pas faire. Souvent, on va critiquer les autres croyants, les autres religions ou d'autres églises en disant par exemple, eux ils adorent les idoles. T'sais, eux ils prient, c'est vraiment abominable. T'sais, ils prient des personnes, des saints, ou ils parlent aux morts. Puis c'est vrai que c'est contre les Écritures. Mais parfois, je réalisais, des fois, ça nous permet quand on critique les autres comme ça. Ça nous permet de ne pas se regarder, hein, de ne pas porter attention à nous. Tu sais, fait que si je dis, Gunnar, là, c'est là trop proche, mais je dis, Gunnar, il y a un gros nez, ça permet de ne pas regarder mon nez. Hein? Si je blâme, mais je ne sais pas, c'est justement Jean-François, il y a quand même un grand front. Hein? Mais, c'est le. Ça me permet à moi d'oublier que je le ressemble, tu sais. Et c'est vrai, donc quand on critique les autres, ça nous permet de repousser les blâmes qu'on pourrait ressentir sur nous-mêmes. Donc, c'est facile des fois de penser à d'autres églises évangéliques ou d'autres églises, soit les catholiques, les orthodoxes, ou sans même parler de d'autres religions, puis de les blâmer. Et ça nous permet d'oublier qu'est-ce que nous, on peut ressentir, ce que nous, on peut avoir comme travers. Donc, moi, je réfléchissais à nous, puis je disais, nous, ce qui est fascinant, on est capable de dire des choses, puis de ne pas les faire. On est capable de lire les Écritures, de déclarer que ça, c'est la parole de Dieu, que ça, c'est vrai, et de rien changer. Et une idée très simple qui m'est venue, c'est penser au chant qu'on peut chanter, qu'on vient à l'adoration. Je n'ai pas vérifié, en fait, tous les chants qu'on avait, mais je pensais à un chant qui était, et ça me frappe toujours, c'est par exemple, c'est « Et je tombe à genoux en présence de ta gloire. Combien de gens tombent à genoux hein, quand on chante ce chant-là? On est capable de chanter, mais on dit que c'est métaphorique. Hein? C'est une image. Et en fait, j'ai pensé, c'est pour quelqu'un qui nous regarde, est-ce qu'il va comprendre que c'est métaphorique? Ou il va dire, ben c'est juste une chanson, c'est comme dire, je t'aimerais, tu sais, je sais pas, une chanson qui passe à la radio, que je t'aimerais toute la vie, puis qu'après ça, on change la chanson, ça passe, puis je t'aime plus, et c'est juste la poésie, finalement. Ma fille, Marianne, me faisait remarquer qu'il y a une version de ce chant-là, et je tombe à genoux, qui dit, et je tombe face à terre. Alors, je me suis dit, oh boy, si on chante cette version-là, on va prier que celle-là fasse vraiment une belle job quand il passe la motte à terre. Là. Mais ça pour dire qu'on est capable bien souvent de dire des choses et de ne pas les faire. J'ai été frappé parce que je cherchais des chants qui disent qu'on tombe à genoux, qu'on se met à genoux, c'est à genoux, je viens devant toi. Et ma mémoire était trop faible. Alors, je cherche sur Internet, puis je me rappelle qu'il y a le chant « Majesté, Majesté ». Et donc, le premier vers, ça dit « À genoux tel que je suis », je ne sais plus. Et là, j'ai cherché, puis j'ai trouvé une vidéo d'un groupe là, qui dans un live, mais ils avaient changé la première ligne. Il y avait pas, ça, c'était autre chose que « Je tombe à genoux ». Et que je me mets à genoux. Et là, à ce moment-là, je dis, au moins, ils sont sincères, eux autres. Personne ne va se mettre à genoux, mais personne ne va avoir dit qu'ils se mettent à genoux. Amen. Alors, au moins, ils font ce qu'ils disent ou ils font pas ce qu'ils disent pas. Mais, tu sais, mais... Ça, pour réfléchir à la capacité qu'on peut avoir parfois de dire quelque chose puis de ne pas le faire. Tout ça pour en venir, entre autres, à dire que nos cœurs ont toujours besoin de se convertir. Moi, j'ai réalisé que ça fait 25 ans, dans cette saison-ci, que je me suis converti. Mais j'ai trouvé intéressant un homme, un juif qui s'est converti au christianisme, qui disait, on m'invite souvent pour faire mon témoignage, puis on me présente comme le juif qui s'est converti. Il dit, on en parle comme si c'était un accomplissement. Mais il dit, ma conversion, c'est juste le premier pas avec le Seigneur. C'est juste une première marche, le début d'une marche. À tous les jours, je marche avec le Seigneur, donc continuellement, en fait, on s'en vient dans la conversion. On doit toujours, notre cœur, ils sont toujours en train d'être transformés, d'être changés. On doit toujours se remettre en question face aux Écritures. Face à ce qu'on découvre. Et donc, de réaliser, OK, finalement, ça fait des années que je dis quelque chose. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça l'amène comme action dans ma vie? Si je ne me pose pas cette question-là, bien, finalement, je vais dire, je tombe à genoux et je ne me mettrai jamais à genoux. Ou je vais dire, en fait, je vais donner d'autres indices plus tard. Ça pour dire que nos cœurs ont toujours besoin, finalement, d'être disponibles au Seigneur pour se convertir. Convertir, ça veut dire changer de source d'énergie, par exemple. Hein? On convertit nos maisons, c'est quoi la mode, les thermopompes, là, si on passait du mazout à l'électricité. On change de source d'énergie, on change de manière de penser. On voit la vie d'une manière. Là, le Seigneur nous montre une autre manière, puis on dit, OK, je dois amener ma pensée avec celle du Seigneur. Amen! Merci. Il y avait un autre chant, et j'ai été frappé parce qu'on l'a chanté ce matin. J'avais donné aucun indice à ce niveau-là, mais j'avais passé depuis longtemps. J'ai vécu un moment, et bon, on en vit régulièrement, un moment d'épreuve, un temps d'épreuve. Puis, dans ces temps d'épreuve-là, tu dis, Seigneur, sors-moi d'ici. Seigneur, sors-moi d'épreuve. Fais arrêter ce problème-là qui se passe dans ma vie. Cette relation-là, cette personne-là qui, qui me fait du mal tout le temps, ou cette tâche-là que j'arrive pas à accomplir, sors-moi de cette épreuve-là. Hmm? Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà prié ça? Je suis tout seul? Merci. Oui. Hein? Ça arrive souvent, on prie, Seigneur, sors-moi de l'épreuve. Et là, je m'en viens à l'église, et je me souviens que j'arrive à l'église, puis c'est un chant que j'aime beaucoup, là. On l'a choisi ce matin, c'est « Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. » Et là, je suis là en train de louer le Seigneur, puis je ne sais pas si vous pensez à quelque chose une fois quand vous louez le Seigneur, mais là, je pense, je dis, « Seigneur, oui, tu purifies mon cœur, comment tu vas faire ça, Seigneur? Comment il fait ça, le Seigneur, purifier nos cœurs? Comment il fait ça, le Seigneur, nous rendre purs comme l'or et l'argent? » Dans une autre version, c'est du feu du fondeur. Hein? C'est c'est par le feu. Et là, je réalise, c'est par l'épreuve. Je dois vous dire que je réalise, ça fait combien de temps que je chante cette chanson-là? Que je dis, Seigneur, purifie mon cœur, envoie-moi des épreuves. C'est ça que j'ai prié. Ce matin, vous ne savez pas, vous avez prié, Seigneur, envoie-moi des épreuves pour purifier mon cœur. Et à cette époque-là, l'épreuve, en fait, était assez forte dans ma vie que j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable de chanter. Reçois ma louange, reçois les chants de tout le monde autour de moi, mais j'étais comme ça, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable de chanter. Je vais garder mes mains, je vais te louer, c'est à toi toute mon adoration, mais je ne suis pas capable de te dire, Seigneur, purifie mon cœur. Autrement dit, je ne suis pas capable de te dire, envoie-moi des épreuves. Tout ça pour dire, de réaliser l'impact de ce qu'on dit. Des fois, on dit quelque chose, on ne le fait pas nécessairement, et on ne réalise pas que le Seigneur nous invite à une conversion, à changer notre manière de penser. Comme celle-là, donc, de « purifie mon cœur », je suis en train de dire « envoie-moi des épreuves ». J'espère que vous allez louer le Seigneur après, hein? Hein? J'espère que... Il faut continuer de louer le Seigneur, mais c'est d'accord de réfléchir à ce qu'on dit. Amen? Amen. Un jour, le prophète Ésaïe, je vous rappelle qu'on est dans Matthieu 21, 12 à 17. Alors, si j'ai pas eu le temps de le faire écrire sur le pamphlet, là, Michel, il partait tôt, alors quand j'ai envoyé mon courriel, il était trop tard. Alors, je ne sais pas si... Ah oui, un jour, le prophète Ésaïe se retrouve en présence, dans le temple, en présence de Dieu. Et il voit la gloire de Dieu. Amen. Quelqu'un se rappelle de ça? Est-ce que quelqu'un se rappelle excuse-moi, elle me dérangeait là, je voulais l'avoir. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle dans quel verset ça se trouve, où vous voulez que je vous dise? Ésaïe chapitre 6, oui, en effet. Et donc, Ésaïe se trouve en présence de Dieu. Il est émerveillé, il est ébloui, en fait, il capote. Si vous voyez, il dit « Ah! » Mais il voit quelque chose de spectaculaire. Hein? Il voit des anges comme ça, des chérubins qui sont en train de voler dans le ciel, là, pas dans le ciel, dans le temple, autour de la gloire de Dieu. Ils ont six paires d'ailes, une qui cache leurs yeux pour pas qu'ils voient la gloire de Dieu, une paire d'ailes qui cache leurs yeux, une paire d'ailes qui doit les aider à voler, là, je suppose, puis il y a une paire d'ailes qui cache leurs pieds pour pas qu'ils touchent à terre, parce que c'est un lieu saint. Dans la présence de Dieu. Alors, c'est une créature céleste, hein, que je vous laisse imaginer comme que vous voulez. Et les chérubins, qu'est-ce qu'ils chantent? Qu'est-ce qu'ils disent jour et nuit? Saint, 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 le Seigneur, le Dieu des armées. Et un jour, un ami me dit, as-tu déjà réfléchi à ce que ça faisait? La terre est remplie de ta gloire. J'ai toujours voulu être chanteur d'opéra, peut-être, mais en tout cas, il chante « La terre est remplie de sa gloire ». Alors, j'ai un ami qui me dit « As-tu déjà réfléchi à ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est déjà, on s'est déjà arrêté à ce que ça veut dire? La terre est remplie de sa gloire. » Est-ce que la terre est remplie de la gloire du Seigneur ce matin? Amen ou non?
Amen.
Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes vraiment capable de le dire? Oui, la terre est remplie de sa gloire. Souviens tout le monde ensemble. Ceux qui sont capables de le dire, ceux que vous n'êtes pas capables de le dire ce matin, ne le dites pas. Ceux qui sont capables, à go, 1, 2, 3, go. La terre est remplie de sa gloire. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça change dans notre vie si la terre est remplie de sa gloire? Regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez-moi pas. Hein? Levez-vous, regardez derrière. On regarde la terre, s'il vous plaît. Il y a une belle grande vitrine. On n'a pas de tort. Ça fait du soleil partout. Est-ce que vous êtes capable de dire la terre est remplie de sa gloire? On regarde dehors. Parce que c'est ça, la terre, hein? C'est pas un concept imaginaire, là. Est-ce qu'on est capable de penser à notre pays d'origine pour ceux qui ne sont pas d'ici? Là, si on pense à Kinshasa, si on pense à Port-au-Prince, si on pense à quel autre pays? À Beyrouth ou au Liban? Hein, est-ce qu'on est capable de dire « La terre est remplie de sa gloire » Amen. Amen. Vous êtes sûr?
Oui.
Amen. Merci, ça m'encourage alors. Merci. Oui. Ah! Bon. Mais au moins, il ne faut pas le dire. Mais est-ce que vous avez déjà entendu toutefois quelqu'un dire « Ah, il y a le démon partout! » Le diable, il règne sur ce monde. Est-ce qu'on a déjà entendu ça? Est-ce qu'on a déjà entendu des messages qui nous disent que justement le mal est remplit le monde? Alors je vous demande si c'est qui remplit la terre? C'est la gloire de Dieu ou c'est le mal? Et si la gloire de Dieu remplit la terre, mais que nous, on remarque juste le mal qui est partout sur la terre? De quelle manière est-ce que notre cœur doit se convertir? De quelle manière je dois changer mon regard sur le monde pour constater, réaliser que la gloire de Dieu, en fait, elle est là? Peut-être que je ne la remarque pas, peut-être que je ne la comprends pas, peut-être que je ne l'ai jamais porté attention. Elle est là cachée quelque part, si je ne l'ai pas remarqué. Si j'ai l'impression que c'est le diable qui a gagné à la croix, même si on ne le dit jamais, on ne dit jamais ça, hein? Heureusement. Mais parfois, on regarde le monde comme si, ah, on dirait que c'est le diable qui a gagné. Mais si la gloire de Dieu remplit la terre, si je suis capable de chanter « La gloire de Dieu remplit la terre », quel regard ça va changer dans mon cœur sur la terre qui est autour de moi? Si finalement on se dit « Non, c'est pas vrai », eh bien, on doit chanter autrement peut-être. Mais là, on en va de la difficulté parce que ce n'est pas juste la poésie d'un chant. C'est dans les Écritures. Amen. Ce morceau-là, je vous le laisse pour la semaine. Ça veut dire que je saute déjà à d'autres choses. Jésus entre dans le temple. Dans Matthieu 21. Et quand il rentre dans le temple, il bardasse pas mal d'affaires. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'après ça, quand une fois il est rentré, il y a des gens qui rentrent avec lui, qui le suivent. Est-ce que quelqu'un se rappelle, on vient de le lire dans les Écritures, qui suit Jésus dans le temple? C'est écrit au verset quelque chose. Les aveugles et les boiteux le suivent. C'est quand même le fun. On serait content d'avoir des aveugles et des boiteux à l'église aussi. Mais qu'est-ce qui est spécial? Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qui est particulier du fait que des aveugles et des boiteux suivent Jésus dans le temple? Exactement, les aveugles et les boiteux n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. Selon la loi de Moïse, les impurs n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple de Dieu. C'est qui les impurs? C'était les lépreux, les aveugles, tous ceux qui ont une infirmité physique n'avaient pas le droit. Une femme qui avait des pertes de sang n'avait pas le droit. Qui d'autre? Ouais, c'est déjà beaucoup, là. OK? Alors, quand Jésus y rentre, les aveugles et les boiteux le suivent. Et aujourd'hui, c'est fantastique parce que les aveugles et les boiteux, il y a vraiment beaucoup de services pour eux. Hein? Un boiteux peut avoir une belle chaise, donc il peut avoir des beaux services à domicile ici, maintenant. Mais à l'époque, imaginez-vous si vous êtes impur. Qui prend soin des impurs? Pas grand monde, parce que si tu prends soin des impurs, tu t'exposes à être impur toi aussi. Donc, le boiteux, il a les vêtements d'il y a plusieurs jours. L'aveugle, il n'y a même pas une belle canne blanche. Là. Donc, c'est les gens qui ont de l'air tout croche qui rentrent dans le temple avec Jésus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'imaginez? Hein? Je vous amène dans l'imaginaire. Il faut essayer d'avoir des images comme ça. Et Et à ce moment-là, Et en plus, c'est vrai, il y a un autre groupe qui suit Jésus. C'est pas écrit qu'il rentre avec lui comme tel, mais il y a un autre groupe qui suit Jésus. Vous remarquez dans le verset ici. Il y a un autre groupe qui suit. Ah, les autres étaient déjà là. Ouais. C'est les enfants qui crient, qui rentrent en même temps. Alors, il y a Jésus qui rentre, t'as les boiteux, t'as les aveugles, qui ont de la toux sale, toute la gang. Et là, t'as les enfants qui sont là en criant, « Hosanna! Hosanna! » Est-ce qu'on dit « Amen à la parole de Dieu? »
Amen.
C'est ça qui se passe. Si vous dites pas « Amen à moi », vous dites « Amen à la parole de Dieu. » Et là, il y a les scribes et sacrificateurs qui, eux, sont déjà là. Puis ils disent, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, là. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ils sont offensés, indignés, par les merveilles que Jésus fait. J'ai sauté le fait qu'il se passe des miracles. Il se passe des miracles, en plus, il guérit des gens. Mais la première merveille que Jésus fait, c'est qu'il bardasse tout le temple. Il renverse les tables et tout. Ça, c'est une première merveille. Deuxième merveille, c'est que des gens qui ne sont jamais rentrés dans le temple rentrent dans le temple. Ça, c'est la deuxième merveille. Troisième merveille, c'est qu'il fait des guérisons. Et la quatrième, c'est que les enfants crient « Hosanna au fils de David ». Donc, c'est toutes ces merveilles-là que les scribes et sacrificateurs sont indignés par. Aujourd'hui, ça serait qui des gens... c'est mon défaut, j'essaie toujours de dire, OK, qu'est-ce que ça change dans ma vie, ça? Et là, je me dis, qui seraient les impurs pour nous aujourd'hui? Parce que c'est clair, si un aveugle vient, on va l'accueillir à bras ouverts, on va être content, on va s'assurer qu'il s'enfarge dans rien. C'est clair que si quelqu'un vient... boiteux, avec un handicap, on va l'accueillir. D'ailleurs, vous m'avez accueilli, j'ai un handicap visuel. On est accueillis. Quand Régent vient, il est bien accueilli. Donc, ce ne sont pas les mêmes impurs aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y aurait des gens qu'on pourrait classifier d'impurs aujourd'hui? Des gens qui sont dépendants à l'alcool, à la drogue, t'as dit au jeu?
On a peur d'eux.
Ah, on a peur d'eux, oui. Tout à fait, on aurait un malaise avec eux.
Les homosexuels.
Est-ce qu'il y a d'autres gens qu'on considérait impurs, qui nous créeraient le malaise, qui s'ils viennent en... Je pensais, comment? Je pense pas de la même façon que nous. Oui, je sais. Mais là, on pense qui nous créerait, on pourrait juger qu'on pourrait penser un peu. Oui?
La semaine passée, il y a un monsieur qui était dehors, un barbu avec une enseigne, puis une rendait mal à la l'aise. Puis il est rentré, puis j'espérais que
je ne sais pas si vous avez entendu, la semaine passée, il y avait un monsieur, un barbu qui prenait qu'une pancarte et qui nous créait un malaise, justement. Moi-même, je pensais que dans Tintin, comme ceux qui annoncent la fin du monde. Là. Mais en fait, ils dénonçaient le racisme qui se passe par la police dans le quartier. Mais c'est vrai qu'il crée un malaise sur son apparence et tout. S'il y avait des extrémistes musulmans, oui, certainement. Moi, j'ai pensé aussi, si une femme arrivait avec un très, très sexy, là, avec des jupes, j'ai entendu que dans d'autres églises, je ne sais pas si on l'a vécu ici, mais j'ai entendu dans d'autres églises, on dit, hey, toi, tu t'en vas t'habiller, puis tu reviendras plus tard. Mais si Jésus rentrait avec ces gens-là, avec des barbus avec pancartes, avec des femmes sexy, avec des homosexuels, puis il rentre, puis il s'en vient ici, est-ce qu'on le reconnaîtrait? Bien, s'ils accompagnent Jésus, si Jésus venait, il venait ici ce matin avec ces gens-là, est-ce qu'on dirait, ah, c'est sûr que c'est Jésus qui est là, ou on dirait, c'est qui le gars avec cette gang-là? tout ça pour dire, en fait, moi, ça m'aide à dire, bon, je ne vais pas lancer la première pierre au souverain, au sacrificateur puis au scribe. Je ne vais pas leur lancer ni la deuxième, en fait, parce que je me dis, je sais que moi-même, je serais bousculé si Jésus arrivait avec des gens qu'on identifie impurs. Et Jésus, il rentre là. Et en plus, comme je disais, il y a les enfants qui crient. Et là, les enfants, ils sont pas cordés comme là en chorale, tu sais, comme en chantant là, Hosanna au fils de David, puis qui font la chorale, tu sais, puis ils font ouvrons les portes au roi. Là, l'autre à côté, Hosanna, tu sais, puis là avec les voix d'enfants, Hosanna. Non, hein, ils sont pas tous bien organisés comme ça. Je sais que nous, on apprécie quand les enfants sont tous bien cordés, là, puis ils sont là, Hosanna! Puis on trouve ça toujours drôle, parce qu'il y a toujours un enfant qui est là, Hosanna! Puis, ça serait déjà amusant. Mais comment ils sont, les enfants, à ce moment-là? Hein? Parce qu'en fait, s'ils chantaient en chorale, je pense que les sacrificateurs, ils auraient été contents. Mais les enfants, ils sont là, en train de crier. Il crie déjà, ça dit, il chante pas, il crie. Hosanna! Hosanna! Hosanna au fils de David! Hosanna au fils de David! Puis si c'est des enfants, on imagine qu'ils se promènent comme ça. Hosanna au fils de David! Hosanna au fils de David! Hosanna au fils de David! Ah, on imagine, encore plus, mais je ne veux pas toucher aux autres instruments, parce que là, vous allez m'attacher. Hein? On imagine que les enfants ils sont en train d'être turbulents de cette manière-là. Hugo dit Amen, mais on laisse ça. Est-ce que c'était des enfants ordinaires qui criaient autour de Jésus? Et les sacrificateurs, ils disent quoi? Jésus, t'es entendu crier? Pourrais-tu les faire taire, s'il te plaît? Calme-les, s'il te plaît. C'est ça que les sacrificateurs, ils disent. Amen? Ah, ça amène la parole de Dieu, hein? C'est ça qu'ils disent. Je ne peux pas dire non, c'est pas écrit ça. Et là, mais là, d'un côté, nous, on est évangéliques, on aimerait dire, wow! C'est vraiment, tu sais, les enfants, en fait, ça, c'est spécial, ce moment-là. C'est un miracle. Ils ont eu la révélation que Jésus, c'est le fils de David.
Amen.
Ah! Hein, c'est spécial pour cette fois-là. D'où est-ce qu'ils ont pris ça, les enfants, que Jésus venait de qui est le fils de David, puis de dire aux Anna, si à un moment donné, vous allez feuilleter votre Bible avant, quand Jésus est rentré dans Jérusalem, c'était le dimanche des rameaux. C'est là que toute la foule, les gens l'acclamaient en disant « Hosanna au fils de David », ils mettaient des rameaux. Donc les enfants, en fait, il y avait une parade, ils ont suivi Jésus et la parade qui mettaient des vêtements et des rameaux devant Jésus et qui criaient « Hosanna au fils de David ». Et à ce moment-là, les pharisiens avaient dit à Jésus « Hey, t'entends-tu les gens? » C'est la deuxième fois dans la journée que Jésus entend ça. Il dit « Tu pourrais peut-être leur dire à tes disciples de se calmer ». De parler moins fort. Et quand ils rentrent dans Jérusalem, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il dit, si je les fais taire, là, c'est les roches qui vont crier. Amen! Et là, ils rentrent dans le temple et là, les sacrificateurs lui répètent, hey, les enfants, ils crient, là. Là, c'est les enfants, c'est même pas ses disciples, là, c'est les enfants. Et en fait, la critique, c'est en même temps, peut-être que les enfants, ils comprennent même pas qu'est-ce qu'ils disent. Ils crient de même parce qu'ils ont entendu ça. Ça fait une demi-heure qu'il y a une parade, que les enfants ils chantent avec la foule. Ils comprennent peut-être même pas qu'est-ce qu'ils disent. Fait qu'il faudrait peut-être quand même les calmer, les enfants. Et voici ce que Jésus va citer de l'Ancien Testament, des psaumes. Pardon, moi, il faut que je me retrouve là. OK. Jésus va dire, je les entends parfaitement. C'est ce qu'il dit. Verset 16. Il dit, n'avez-vous donc jamais lu cette parole? De la bouche des tout-petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer la louange. » Je n'ai pas la même version qu'on a lue tout à l'heure. Mais il dit, « La bouche des enfants et de ceux qui sont encore à la mamelle, tu as su tirer la louange. » Et là, je vous invite à entrons dans notre cœur, vous dire, « Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans ma vie, finalement? » Si Dieu dit que de la bouche des enfants, il tire sa louange. Et même plus pire, on en parlait au groupe Maison, et une dame me dit, « Mais voyons, ceux qui sont à la mamelle, ils peuvent même pas crier aux Hosanna, là, c'est quoi? » En effet, ce n'était pas ceux qui étaient à la mamelle qui criaient aux Hosanna, mais la parole de Dieu nous dit que même Dieu sait tirer la louange même de ceux qui sont à la mamelle. Et j'essaie de penser dans la vraie vie, qu'est-ce que ça veut sous-entendre?
C'est bon.
C'est le bébé qui dit ça? Ah, le bébé, il dit que c'est bon. Le bébé pleure. Et ce qui m'a frappé, c'est de dire que même les pleurs d'un bébé, que moi, je ne suis pas capable de comprendre ce qu'il dit, à part, j'ai l'impression que soit, avec les enfants, j'avais un test, c'est soit trois choses. Hein, c'est soit il a soif, soit il est mouillé, il faut changer sa couche, ou il a mal au ventre. Mais le Seigneur, il en ajoute un quatrième, c'est gloire à Dieu. Ça, c'est comme la gloire qui remplit le monde. On regarde le monde des fois, puis il me semble que c'est pas ça que je vois. Mais le Seigneur, il dit, oui, la gloire, elle est là. Amen. Quand j'entends le bébé pleurer, moi, j'entends les décibels qui m'agressent dans les oreilles. Et le Seigneur, il dit, et j'essayerai pas d'expliquer la mécanique du Seigneur, mais le Seigneur, il dit, moi, je transforme ça en ma louange. Le Seigneur, il dit, j'apprécie même les pleurs du bébé. Amen. Et ensuite, c'est pas juste la pleur du bébé, mais il dit aussi les chants de la bouche des tout-petits, il sait accueillir la louange. Un jour, c'est un de mes enfants, je pense que je me rappelle c'est lequel, mais je ne nommerai pas parce que des fois c'est gênant quand on dit les témoignages des enfants. Mais bon, c'était dans une église, c'était, je crois, avant d'être petit parce que c'est un de mes enfants qui était tout petit. Puis, je tenais mon enfant dans mon bras, dans mes bras, pendant la louange. C'est une des stratégies pour essayer de garder l'enfant avec nous, mais tranquille. Hein? Mais je le garde dans mes bras, comme ça. C'est sûr que j'ai pas la même concentration hein, au Seigneur, mais c'est comme ça, et je me souviens que j'essaie de me concentrer, puis là, je suis là. C'est « Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre. » En ce lieu parmi nous. Et là, j'ai mon enfant qui lève la main, puis parmi nous! C'est dans mon oreille, naturellement. Et là, je regarde mon enfant, puis là, je me dis, est-ce qu'il comprend qu'est-ce qu'il dit? Et là, je dis, est-ce qu'il est en train de dire parmi nous, miaou? Vraiment, j'ai cette question-là. Je dis, est-ce qu'il est en train de. Il a reconnu un mot, minou, minou, parmi nous! C'est vraiment un jeune, et c'est vraiment un jeune, là, tu sais. Ben, assez jeune, puis je le tiens dans mes bras, déjà. Et là, je me demande, est-ce que mon enfant comprend? Et pas sûr, mais j'ai dit, ben, Seigneur, je te remets ces louanges. Toi, tu sais en faire ton adoration. Mon enfant, j'ai jamais pu le psychanalyser pour savoir ce qu'il voulait dire minou, ou il comprenait vraiment la phrase, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre parmi nous. Je sais pas. Mais au moins, je suis réconforté que par ce chant-là, que Dieu, lui, par une mécanique spirituelle, il a transformé ce chant d'enfant-là en sa louange. Amen!
Amen.
Mais on comprend que je ne sais pas pour vous, mais ça nous bouscule un peu quand même. De se dire, ah oui, les enfants, finalement, quand on est à l'église, puis il y a un enfant qui pleure, moi, le premier... Je regarde par là, puis je me dis, ça serait bien que... Il y a une porte là-bas, hein? On espère qu'il y a quelqu'un à la garderie. Mais le Seigneur dit, lui, c'est transformer ça à sa gloire, à sa louange. Est-ce que je suis capable, moi, Daniel Marino, de transformer, me convertir, puis dire, OK, je vais reconnaître que Dieu tire sa louange dans ce cri-là? Est-ce que quand mon enfant vient puis qu'il loue le Seigneur, puis je ne sais pas s'il comprend tout ce qu'il dit, est-ce que je suis capable de convertir mon cœur et de dire, Dieu est en train de recevoir ce chant-là, même s'il n'est pas, peut-être pas compris intellectuellement, Dieu le reçoit comme un chant de louange. Je ne vous demande pas de dire amen là-dessus, je vous demande de... Parce que je sais que ça ne se fait pas comme ça, de dire oui. Un des seuls moments où Jésus s'est mis en colère. En fait, souvent, j'ai entendu, la seule fois que Jésus s'est mis en colère, c'est dans le temple. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un s'est impressionné? Moi, je n'ai pas s'impressionné, mais c'est la fois que vraiment Jésus a fait une grosse colère, là, vraiment grave. Là. Hein, on se dit, des fois, on essaie de dire, moi aussi, j'ai fait une sainte colère là, à la maison. Et, c'est jamais semblable, mais une des autres fois où ce que Jésus s'est mis en colère, c'est dans Marc, au chapitre 10, au verset 14. Il y a des familles qui veulent amener leurs enfants à Jésus. Hein, ils approchent leurs enfants, puis les apôtres, hommes de Dieu, ils étaient 12 hommes de Dieu, vraiment exceptionnels. Ils ont fait, le Seigneur dit qu'ils ont 12 trônes dans le ciel, c'est pour les 12 apôtres. Amen! Hein, et eux sont ordonnés, ils disent, hey, les enfants, laisse-les là-bas, laisse-les tranquilles. Et ça dit, il faisait des reproches aux familles, au verset 14, Marc 10, 14. Jésus le vit et s'en indigna. Est-ce que quelqu'un a le mot colère? Moi, j'ai indigna, mais... Il s'indigna, j'avais une autre version à la maison aussi qui disait, il s'est mis en colère. Ah, c'était la version pour la Bible d'Antoine pour les enfants, en français courant. Il s'est mis en colère qui s'est indigné contre les apôtres. C'est pas indigné contre les pécheurs. C'est pas indigné contre les gens qui s'éloignent de Dieu comme tel ou que les gens contre les gens qui sont impurs ou quoi que ce soit. Il s'est indigné contre les apôtres. Parce qu'il cherchait à éloigner les enfants de Jésus. Et le Seigneur a dit justement à ce moment-là, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Pendant longtemps, même pour moi, « Laissez venir à moi les petits-enfants », c'est-à-dire on leur prépare un programme, on les envoie dans une classe, « Regarde Seigneur, on accueille les enfants, on les met à part. » Ça, c'est laisser venir à moi les petits-enfants. C'est mon interprétation à moi. C'est ce que j'avais toujours vécu aussi. Mais le Seigneur dit, laissez venir à moi. Et il y a une parole plus forte. Parce que quand on réfléchissait sur la louange, vous avez compris mon lien peut-être. On réfléchissait à la place des enfants dans la louange. Une des choses qui est vraie, c'est que ça nous distrait, les enfants. Quand ils arrivent, ça nous distrait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Des fois, on est là et on est vraiment dans la présence de Dieu. Là. On se sent vraiment bien. Les mains en haut, pas. Qu'importe. Et là, notre enfant arrive. Papa, regarde ce que j'ai fait. Maman, regarde ce que j'ai fait. Moi, je me souviens souvent, j'avais l'impression, je disais, Seigneur, pause, je reviens. C'est pas long. Et des fois, je revenais et je dis, Seigneur, je ne suis pas capable de revenir. J'arrive plus à être dans ta présence. J'arrive plus à être près de toi. Ça nous dérange vraiment souvent, les enfants, comme ça. Surtout quand c'est les nôtres. Tantôt, je parlais que comment Dieu est capable de transformer les pleurs du bébé à sa gloire. Quand c'est les autres, on est des fois plus capable d'être tolérant un peu. Quand c'est le nôtre, on s'imagine que tout le monde est intolérant contre nous. Donc, quand c'est mon enfant qui vient me déranger, qui dit « Regarde, papa, qu'est-ce que j'ai fait? » On est à l'envers. Et là, je vous demande un geste de foi aujourd'hui, surtout pour les parents, mais aussi pour les autres aujourd'hui. Dans Matthieu 18, le Seigneur nous donne une parole qui, à mon avis, est très forte. Parce que si vous êtes dans la présence de Dieu, hein, puis qu'on est là, par exemple, et on dit, « Ouvre les yeux de mon cœur, Père, Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, je veux te voir. Puis là, paf, ton enfant arrive. Puis il dit, regarde maman, regarde papa, qu'est-ce que j'ai fait? Et on se dit, ah, oui. Je voulais te voir, ben, je reviens. Hein? Dans Matthieu 18, le verset 5. Je vais avoir une place. Celui qui accueille en mon nom un enfant, comme celui-ci, m'accueille moi-même. Donc, le jour que vous êtes en train de dire, Seigneur, je veux te voir, ouvre les yeux de mon cœur, puis qu'un enfant vient vous déranger, accueillez l'enfant. Dites, bonjour, enfant. Excusez son nom, c'est facile. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'accueillir le Seigneur lui-même. Est-ce que c'est ça que la parole veut dire? Ou sinon, c'est juste une poésie, peut-être? Est-ce que la parole, c'est juste un poème? Le Seigneur a dit ça de même, mais il ne voulait pas vraiment dire ça. Ou le Seigneur a vraiment dit, quand vous accueillez quelqu'un, un enfant, comme celui qui était là, on ne l'a pas vu, nous, mais on accueille le Seigneur. Donc, même au milieu de la louange, accueillir un enfant, lui dire bienvenue, lui dire salut, comment ça va? De prendre le temps de l'écouter, de voir qu'est-ce qu'il a fait, de sécher ses pleurs peut-être, ou juste de dire, chut, parle pas trop fort quand même, mais de lui donner de l'attention, de lui donner du temps. Le Seigneur dit, on accueille le Seigneur lui-même. Je sais que ça demande justement de la conversion dans nos cœurs, parce que si je vous prêchais, accueillez-moi, moi le prédicateur, ce serait facile. Venez me dire bonjour à la fin du message. Ça serait facile à dire, et c'est souvent le réflexe de tout le monde. D'aller saluer les gens importants, c'est toujours précieux, et on n'a pas besoin souvent de le dire. Mais le Seigneur, il dit, quand on accueille un enfant, on accueille le Seigneur. Amen. Alors, c'est justement, je suis sur mes temps, les parents bénévoles qui étaient volontaires pour aller chercher les enfants en bas, je vous invite à y aller. Allez prévenir le J2 en premier. Je vais inviter l'équipe de louange à venir en avant. Le Seigneur, on va terminer en inclinant nos têtes, en priant. Seigneur Jésus, tu es vivant. Seigneur, souvent, j'ai voulu que tu fasses des grandes choses dans mon cœur, des grandes transformations. Mais toi, tu viens, tu touches à des petites choses, des petits débuts, des petites conversions. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse te voir, Seigneur. Que ce soit ta gloire qui remplit le monde, la terre, que ce soit ta louange qui est tirée de la bouche des enfants. On a besoin de tes yeux, Seigneur. On a besoin de te découvrir. Manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ce matin. S'il y en a qui veulent élever la voix en prière, sentez-vous à l'aise.